Monseigneur, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue pour la troisième partie du cycle des conférences de carême de Notre-Dame à Saint-Germain-l'Auxerrois sur la mystérieuse musique des sacrements dans la littérature du XXe siècle. Nous avons écouté Léon Blois et Paul Claudel. Aujourd'hui, c'est l'œuvre et la situation personnelle, assez originale, de Charles Péguy que nous rencontrons. Avec Nicolas Faguet, qui est professeur de lettres, spécialiste et amoureux de la littérature de Charles Péguy. Il fait partie d'un cercle qu'il faut connaître, le cercle Amitié Charles Péguy. Et Nicolas a traduit de nombreux textes, notamment du théologien Urs von Balthasar, qui s'est beaucoup intéressé à l'œuvre de Péguy. D'ailleurs, il a soutenu une thèse qui est publiée sur le poète et qui s'appelle « L'unité de l'œuvre de Charles Péguy dans, selon Hans Urs von Balthasar ». Avec lui, nous allons nous attacher à évoquer une spiritualité de la communion développée par l'écrivain, figure très actuelle et absolue d'une foi sans compromis dans le monde tel qu'il est. Car les sacrements livrent une surprenante présence de Dieu qui vient dans le monde, dans notre monde, dans notre être profond, rendu capable d'exprimer humainement aussi bien la parole que la charité divine. Pour ce vaste programme, Nicolas, venez devant l'autel.
Monseigneur, mesdames, messieurs, chers amis, les meilleures manières d'entrer dans notre méditation, c'est peut-être de commencer par regarder le lieu où nous sommes. Nous sommes dans une nef, au cœur de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, et une nef, c'est comme un bateau renversé. Nous avons la coque au-dessus de nous, et nous sommes sur le pont. Une nef est un vaisseau qui nous réunit et qui nous emporte quelque part. Et déjà par le fait d'être réunis ici physiquement, nous sommes déjà en communion. Et les personnes qui nous écoutent sur France Culture et celles qui nous voient sur KTO sont elles aussi en communion avec nous. Une nef est une barque et elle a un capitaine. Ce capitaine, nous pouvons le voir de bien des manières. Nous le voyons d'abord dans cette forme en croix, entre cette nef et le transept. Nous le voyons aussi sur l'autel du sacrifice, sur cet ambon. Et par une heureuse coïncidence, ils ont été dessinés par mes parents, à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui. Le capitaine, nous le voyons aussi dans le tabernacle. Nous le voyons aussi dans ces petites armoires où il y a un prêtre qui entend les pénitents. Nous le voyons enfin au fond de l'église, dans cette fenêtre, dans ces vitraux où entre une lumière colorée de l'Orient, mais de façon plus péguiste, c'est-à-dire propre de Charles Péguy, nous pouvons voir le capitaine de cette nef ailleurs. Si nous regardons les colonnes et nous montons tout en haut, et nous voyons au-dessus de nos têtes des clés de voûte. Dans cette église, plusieurs clés de voûte ont été représentées avec des saints patrons, et celle qui est juste au-dessus de moi représente une sorte de fleur. La fleur est traditionnellement l'image de la Vierge, fleur mystique. Mais ici, dans l'esprit de Péguy, la fleur, c'est le Christ. Parce que le Christ est comme la fleur, le fruit de générations, il est la fleur magnifique d'Israël. Et le Christ est aussi la clé de voûte. Je vous citerai tout de suite quelques vers du magnifique poème intitulé « Le mystère des saints innocents ». Tout l'Ancien Testament va vers Jean-Baptiste et vers Jésus. Mais tout le Nouveau Testament vient de Jésus. C'est comme une belle voûte qui monte des deux côtés vers la clé de voûte. Et la dernière pierre avant la clé est Jean le Baptiste. Mais la première pierre après la clé est Pierre le fondateur. Tu es Pierre et sur cette pierre, il fut crucifié la tête en bas, c'est-à-dire en redescendant. Et la clé de cette mystique voûte, la clé elle-même, charnelle, spirituelle, temporelle, éternelle, c'est Dieu, c'est Jésus, homme, Dieu. Jésus est donc la clé de voûte de l'histoire du salut. C'est la clé de voûte du salut. Pourquoi ? Parce qu'il est charnel, spirituel, temporel, éternel. Il fait en lui la communion de l'homme et de Dieu. Nous savons par saint Jean que la communion est la fin et l'objectif, le but de notre vie chrétienne. Dans sa première lettre, il dit par exemple « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. » Or, si Jésus a fondé les sacrements, et c'est précisément pour la communion, il a voulu que cette communion qu'il a vécue lui-même dans sa chair, étant homme et Dieu, puisse se perpétuer durant les siècles, et l'offre ainsi aux générations les unes après les autres des lieux où l'homme puisse à nouveau entrer en communion avec Dieu et avec les autres frères. Aujourd'hui, dans cette méditation, nous voudrions donc entrer dans cette dimension des sacrements comme communion, en suivant la parole de Charles Péguy, qui paradoxalement était quelqu'un qui n'a pas pu vivre la communion. De par sa situation matrimoniale, dont je vais vous présenter les aspects principaux, il n'a pas pu vivre le mariage chrétien, il n'a pas pu communier, il n'a pas pu recevoir la confession. Mais justement, de sa situation au porche de l'Église, il est entré si profondément dans les sacrements qu'il nous a laissé des paroles merveilleuses, dont je vous lirai des extraits. Je commencerai par vous retracer brièvement la vie de Charles Péguy. On peut dire une vie qui est marquée par la soif de communion. Première partie de sa vie, son enfance à Orléans. Il naît dans un milieu modeste, dans le faubourg Bourgogne, aux portes de l'ancienne ville d'Orléans, le 7 janvier 1873, 4 jours après la petite Thérèse, dont son message est si proche, et le lendemain de l'anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, qui est née la fête des rois le 6 janvier. Et pour Péguy, Jeanne d'Arc sera une figure essentielle. Il devient très tôt orphelin, son père meurt quand il a 10 mois, des suites des privations de la guerre de 1870. Péguy est baptisé le 13 avril dans l'église Saint-Aignan, et on peut encore voir les fonts baptismaux où il était baptisé. Il vit avec sa grand-mère, Étiennette Quéré, illettrée, mais qui lui donne le goût de la langue. Il vit avec sa mère, qui est rempailleuse de chaises, et de qui il dira ces paroles merveilleuses. J'ai vu toute mon enfance, rempaillée des chaises, exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Péguy va au catéchisme, dans cette église Saint-Aignan, et il dit « Tout le monde n'a pas une paroisse comme ça. » Il aime beaucoup apprendre, il apprend de ses curés, il apprend donc une métaphysique religieuse. À l'école laïque, il apprend une métaphysique opposée, disons laïque et républicaine, mais ces deux enseignements se lient éternellement dans son cœur. Voici ce qu'il dira bien des années plus tard. Qu'importait, pourvu que ce fussent les enseignements, il y a dans l'enseignement et dans l'enfance quelque chose de si sacré. Il y a dans cette première ouverture des yeux de l'enfant sur le monde, Il y a dans ce premier regard quelque chose de si religieux que ces deux enseignements se liaient dans nos cœurs et que nous savons bien qu'ils y resteront éternellement liés. À l'âge de 13 ans, Peggy fait sa première communion. Sans doute, il n'a pas beaucoup pratiqué. Sa mère dira des années plus tard à Emmanuel Mounier qu'il n'avait pas le temps d'aller à la messe tant ils avaient du travail. Mais Peggy garde de son enfance l'image d'un monde où l'on travaille, mais où le travail a comme une dimension sacrée. C'est une sorte de ora et labora. Et voici la saveur du monde de son enfance. Tout était une élévation intérieure et une prière, toute la journée. Le sommeil et la veille, le travail et le peu de repos, le lit et la table, la soupe et le bœuf, la maison et le jardin, la porte et la rue, la cour et le pas de la porte, les assiettes sur la table. Il disait en riant et pour embêter les curés que travailler c'est prier. Elle ne croyait pas si bien dire, tant leur travail était une prière et l'atelier était un oratoire. En 1891, Peggy arrive à Paris, il prépare le concours de l'école normale supérieure et dans le contexte parisien, deux grandes expériences le marquent. Première, l'affaire Dreyfus, et deuxième, la situation des pauvres, la situation ouvrière. Il est assez choqué par le monde bourgeois, par l'Église de son temps, et au moment d'entrer à l'école normale supérieure, en 1894, il rompt avec l'Église au nom d'un idéal de fraternité qu'il ne voyait pas à l'œuvre dans les chrétiens de son temps. Il imagine une théorie sociale, une sorte de rêve utopique de fraternité universelle où tous les hommes de toutes les races, de toutes les religions seraient réunis ensemble. C'est un monde où nul ne serait exclu. Et pour lui, une des raisons de sa rupture avec l'Église, c'est l'épouvante de l'enfer. Il dit « Cette épouvante me tient au cœur. Il ne peut pas tolérer qu'on laisse quelqu'un à la porte, ni sur terre, ni dans l'éternité. Comment Dieu pourrait-il avoir le cœur de laisser quelqu'un dehors ? » L'héroïne, pour lui, c'est Jeanne d'Arc, paradoxalement, qui ne laisse rien tomber. Cette même année, en 1897, il épouse Charlotte Baudouin, qui est la sœur de son meilleur ami, un ami avec qui ils avaient partagé ce rêve socialiste et qui est mort. Et par une sorte de fidélité, il épouse cette femme qui est d'une famille républicaine et très anticléricale. Le mariage n'a lieu donc qu'à la mairie. Il échoue à l'agrégation et décide de fonder une revue qui s'appelle « Les cahiers de la quinzaine ». La dot est mise au profit de cette revue et le slogan qui continue d'inspirer les journalistes, est le suivant. Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La revue a un grand impact intellectuel, mais peu d'abonnés, autour de 1400. Ce qui veut dire que la survie économique de la revue et de la famille de Peggy est toujours précaire. Autour de 1907-1908, de manière très mystérieuse, Peggy dit à l'un de ses amis, Joseph Lott, « Je ne t'ai pas tout dit, je retrouvais ma foi, je suis catholique. » Il ne dit pas « la foi », mais « ma foi ». Donc il retrouve ce qui est la foi à lui, la foi de son enfance, par des chemins très mystérieux que lui-même décrit comme « approfondissement ». Il parle d'un approfondissement constant du cœur, toujours dans la même voie. Il dira que c'est pour les mêmes raisons qu'il a quitté l'Église au nom d'une solidarité plus grande, et pour les mêmes raisons, il revient à l'Église, mais là où il revient, c'est au cœur des Évangiles, parce qu'il découvre que le premier qui a rêvé de cette solidarité universelle, c'est Dieu lui-même. Et le premier qui a tout donné, c'est Dieu qui a envoyé son Fils pour que toute l'humanité soit sauvée. Un constant approfondissement du cœur. Et à ce moment, son génie poétique explose. Peggy, qui n'avait plus écrit de poésie depuis la première Jeanne d'Arc, quand Peggy avait 24 ans, là, la poésie fleurit. Il écrit le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, le porche du mystère de la deuxième vertu, le mystère des saints innocents. Il fera un pèlerinage fameux dont il rendra compte dans la tapisserie de Notre-Dame. Mais tout en écrivant cette poésie magnifique, il n'interrompt pas son combat politique. Il continue d'écrire des pamphlets, des essais. Il continue à être le batailleur qu'il a toujours été. Mais maintenant, c'est pour une nouvelle raison. C'est parce que le Christ s'est incarné. Et ça veut dire que depuis l'incarnation, il n'y a rien de charnel, rien de temporel qui ne doive être imprégné d'esprit chrétien. Et c'est tout l'opposé du retrait du monde. Peggy, quand il devient chrétien, trouve des raisons supplémentaires de s'engager dans le monde. Et dans des pages qu'il laisse posthumes, il dit que la grande raison de la déchristianisation du monde moderne, c'est pas que le monde aurait trouvé des nouvelles idées auxquelles on n'aurait pas de réponse, mais c'est que le monde a un cœur moderne. Et un cœur moderne, c'est un cœur rempli d'avarice, un cœur habité par l'argent, un cœur individualiste, et que les chrétiens sont devenus modernes comme les autres. Et la grande tentation, c'est la tentation spiritualiste. Comme le monde est mauvais, on se réfugie dans le spirituel. Mais Peggy va dans une direction toute contraire, c'est justement au nom de l'incarnation qu'on doit continuer à incarner ce monde. Et là, une formule très belle pour donner du courage aux chrétiens, sachant que nous sommes tous dans des milieux souvent non chrétiens, dans des milieux hostiles, et il dit « Nous sommes tous à la frontière ». Nous sommes tous comme des croisés tout seuls face à des incroyants, mais justement, il faut tenir bon, il faut rester là et tenir bon. Hans Urs von Balthasar a justement composé un choix de texte de Charles Peggy et l'a intitulé « Nous sommes tous à la frontière ». Peggy dit « Il faut tenir bon » et cela vaut essentiellement pour lui parce que dans sa famille, personne ne comprend son évolution. Sa femme ne comprend pas, sa belle-mère qui est à la maison aussi ne comprend pas, le beau-frère qui ne travaille pas et qui est à la maison est là. Les catholiques non plus ne comprennent pas, parce que Peggy était un représentant du dreyfusisme, du socialisme. En plus, il n'est pas marié, ses enfants ne sont pas baptisés. Peggy dit d'ailleurs « Mes enfants ne sont pas baptisés, à la Sainte Vierge de s'en occuper ». Et Claudel, pour faire un lien avec la semaine dernière, Claudel disait « Mais enfin, il confie ses enfants à la Vierge et ne sont même pas baptisés, je n'y comprends rien ». Donc Peggy était dans une situation vraiment d'isolement et personne ne comprenait. Et ses amis catholiques, comme Jacques Maritain, lui disaient « Mais enfin, tu reviens à la foi ». C'est très simple, tu te maries et tu fais baptiser les enfants. Et si ta femme ne veut pas, c'est le privilège paulinien, tu te sépares. Mais pour Peggy, se séparer, c'était contre son idéal de la solidarité et c'était contre aussi la vérité de la nature. C'est-à-dire que s'il avait donné un oui du point de vue civil et naturel, il ne comprenait pas que la grâce puisse venir découdre ce qui avait été cousu avec authenticité. Et donc il reste dans cette situation impossible, il retrouve la foi, mais à cause de son mariage uniquement civil, il ne peut pas communier, il ne peut pas recevoir l'absolution, il ne peut pas faire reconnaître son mariage à l'Église. Cette situation décrit le vers qui est sur le titre de la conférence et qui était, j'avoue, un petit peu obscur. Tant de coups de fortune et de coups de misère n'ont pas laïcisé ce cœur sacramentaire. Donc toute cette misère qu'il a, et en même temps la fortune, c'est-à-dire tous ces dons d'écrivain, n'ont pas laïcisé, c'est-à-dire n'ont pas rendu athée ou mécréant ce cœur sacramentaire. Peggy a continué à garder les sacrements en son cœur, bien qu'il n'y ait pas eu accès. Il ne s'est pas rebellé, il a accepté et il a patienté. Que peut-il donc nous dire sur les sacrements ? Une première chose apparaît dans un écrit posthume qui s'appelle « Dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle ». La muse de l'histoire, Clio, parle à Peggy et lui dit « Ton âme, vois-tu, toi qui es chrétien, ton âme est charnelle. Ton âme a quelque chose de la chair. Elle vit dans le temps et elle vit dans l'espace. Et c'est pourquoi il y a les sacrements. Et là est le génie des sacrements, c'est qu'ils correspondent à la nature de l'âme humaine qui n'est pas abstraite, qui n'est pas atemporelle, mais qui est enracinée dans le temps. Dans le temps, le corps a besoin de se nourrir. Et c'est les deux sacrements de l'Eucharistie et de la confession qui prépare l'Eucharistie. Il les appelle les sacrements de la nourriture. Et puis, de même que la vie corporelle est faite d'étapes, de la naissance à la mort, l'âme aussi, nous dit Peggy, a comme, je cite, « un emploi du temps ». Les sacrements, il dit, ils font une sorte d'échelle irréversible de la vie. Il y a le baptême qui marque l'entrée dans le christianisme même, dans tout le christianisme et dans la cité chrétienne. Vous voyez, pour lui, le baptême, ce n'est pas seulement moi qui suis immergé dans la mort et résurrection du Christ, mais c'est l'entrée dans la société universelle de tous les temps et de tous les lieux, qui est la communion des saints. Donc on retrouve son idéal socialiste qui s'accomplit dans le baptême, où nous sommes en communion avec tous les hommes et tous les saints de tous les temps et de tous les lieux. Il y a la confirmation qui fait l'entrée dans le commerce du Saint-Esprit, l'ordre qui fait l'entrée dans le ministère, dans l'état sacerdotal, et puis le mariage. Et Peggy a une formule assez drôle, il dit « Le mariage, finalement, ça fait surtout une mise en ménage. » Et puis il y a l'extrême onction qui fait une entrée dans l'état de mort. Donc première chose, Peggy, quand il revient à la foi, découvre la merveilleuse coïncidence entre la nature temporelle de l'âme et les sacrements qui lui sont donnés pour continuer à vivre et pour s'épanouir. Nous allons voir maintenant plus précisément le mariage, l'Eucharistie et puis la confession. Comment quelqu'un qui ne vit pas de ses sacrements en même temps peut s'en nourrir ? Tout d'abord, pour Peggy, le mariage est très proche de la famille. Et la famille chrétienne n'a qu'une chose à faire, c'est regarder la Sainte Famille. Dans son œuvre, la relation entre époux n'est jamais décrite avec les grands élans du romantisme. Ce ne sont pas les personnages de Claudel. Ce sont des gens qui font des choses toutes simples dans la routine quotidienne. Et il dit « Toute famille chrétienne a les yeux fixés sur la famille de Nazareth. Des milliers de familles chrétiennes, des centaines de milliers, des familles chrétiennes innombrables, ont fait leur salut et gagné le ciel ensemble, en famille, les yeux uniquement fixés sur la famille de Nazareth. » Voilà. La famille chrétienne n'a qu'une chose à faire, regarder la famille de Nazareth, où Joseph travaillait, Marie s'occupait de Jésus, n'avait rien d'extraordinaire. mais cela comporte la fidélité. Peggy était dans une situation familiale très difficile, mais il a gardé au cœur la fidélité. Et c'est la raison pour laquelle il fait son pèlerinage à Chartres en 1912. Il vient demander à la Vierge la force de rester fidèle, à un moment où la relation avec sa femme était compliquée, à un moment où un enfant était malade, et à un moment aussi où il est troublé par une tentation amoureuse à l'égard d'une jeune admiratrice des cahiers de la quinzaine, admiratrice à laquelle il renonce, et il l'invite à épouser quelqu'un d'autre. Cette dame, d'ailleurs, n'a jamais su les sentiments de Peggy à son égard. Mais Peggy va à Chartres et il demande, dit-il, une fidélité plus forte que la mort. Il demande même d'aimer l'honneur, c'est-à-dire d'aimer la fidélité. Par ce vieux tour de main, par cette même adresse qui ne servira plus à courir le bonheur, puissions-nous, ô régente, au moins tenir l'honneur et lui garder lui seul notre pauvre tendresse. Donc cette tendresse qui n'arrive pas à s'épanouir dans le lien matrimonial, il la reverse au moins sur la fidélité. Et à partir de ce moment, Peggy écrira des choses merveilleuses sur les enfants. Il parle par exemple du rapport de Joseph à Jésus. Jésus, dans son berceau, regarde Saint Joseph et par espièglerie veut lui tirer la barbe, et le vieux se récrie et fait semblant de mordre afin que l'enfant rie. Il dépeint aussi le rapport des mères à leurs filles. Les armes de Jésus, c'est la sourde tendresse de la mère à la fille, afin que reparaisse en cet enfant naissant une même tendresse et dans le temps futur une même caresse, et ce même regard et cette même tresse blonde qui fleurira. Vous voyez ce mot de tendresse qui revient constamment chez Peggy. Et cette tendresse, il l'a vécue lui-même avec ses propres enfants, et il en parle dans le porche. Il y a une scène, par exemple, très belle, où il raconte le baiser du père à ses enfants le soir. Pour eux, le baiser du père, c'est un jeu, un amusement, une cérémonie. Ça leur est tellement dû, ils ont le cœur pur, ils reçoivent ça comme un morceau de pain. Ils trouvent seulement, quand leurs yeux rencontrent le regard du Père, qu'il n'a pas l'air de s'amuser assez dans la vie. Et on sent dans ce vers toute la lourdeur, non ? Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette expérience que fait Peggy de la paternité devient pour lui un accès à Dieu. Il ne vit pas le mariage sacramentel. Néanmoins, le mariage est pour lui un lieu de communion avec Dieu grâce aux enfants. Son lien de père avec ses enfants lui ouvre au mystère du rapport entre le Père éternel et le Fils, et son propre Fils, et à travers le Fils à tous les hommes. Ce que lui ressent pour ses enfants le met en communion avec ce que Dieu ressent, ce que le Père ressent pour nous. Je vais vous lire d'autres vers qui sont comme une sorte de transposition de ce qu'il avait dit avant. C'est dans les Saints Innocents. Dieu a vu les plus grands saints, n'est-ce pas ? Il a vu des martyrs, il a vu toutes sortes de choses. Eh bien, je vous le dis, je n'ai jamais vu de si drôle et par conséquent, je ne connais rien de si beau dans le monde que cet enfant qui s'endort en faisant sa prière et qui mélange son Notre Père avec son Je vous salue Marie. Rien n'est si beau et c'est même un point où la Sainte Vierge est de mon avis là-dessus. Et je peux bien dire que c'est le seul point où nous soyons du même avis, car généralement nous sommes d'un avis contraire, parce qu'elle est pour la miséricorde et moi il faut que je sois pour la justice. Il représente aussi Dieu le Père qui pleure quand il voit le Fils prodigue qui revient. C'est encore le Père qui pleurait le plus. Et Peggy lui-même se représente en Père qui pleure en pensant à ses enfants comme ils seront plus tard, à la tête qu'ils auront. Et donc, Ce que nous montre Peggy, c'est que Dieu, au fond de lui, Dieu est charité, mais la moelle de sa charité, c'est la tendresse. Le mot propre de Dieu, c'est la tendresse. Peggy en a parlé comme nul autre, nous dit Balthazar. Mais s'il a pu parler de cette tendresse de Dieu, c'est parce que lui-même, de par les conditions de sa vie, a une tendresse humaine qui n'a pas pu s'épanouir avec sa femme, mais elle s'épanouit avec ses enfants, et cela l'a mis en communion avec Dieu, avec le mystère trinitaire. Peggy n'a pas forcé sa femme à l'épouser, il a prié pour elle, et 11 ans après la mort de Peggy, elle se fera baptiser, ainsi que les enfants. Et on sait que Peggy est parti à la guerre en 1914. On croit que le 15 août, il a communié, il s'est confessé. Une chose très belle, c'est que le lendemain, il écrit la lettre suivante à sa femme. « Je pense à vous sans une ombre et sans une hésitation. » Et quand il meurt sur le champ de bataille à Villeroy, près de Paris, ses derniers mots sont « Mon Dieu, mes enfants ». Donc je crois que l'image de Peggy peut parler beaucoup aujourd'hui à beaucoup de couples, que ce soit des couples qui ont été rompus pour des séparations, pour des veuvages, ou des couples où la relation entre hommes et femmes est difficile. Il y a une époque où on insiste beaucoup sur le rapport homme et femme comme image du Christ et de l'Église. Et quand ce rapport devient compliqué, eh bien Peggy nous dit « tout n'est pas fini ». Parce qu'il y a cette autre dimension, le rapport des pères et des enfants, des mères et de leurs enfants, qui ce rapport aussi les met en communion avec Dieu, et même leur révèle quelque chose d'encore plus profond, qui est la tendresse, et la tendresse de Dieu. Qu'en est-il de l'Eucharistie, maintenant ? Peggy a beaucoup parlé de l'Eucharistie dans le mystère des saints innocents, pardon, dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, où il décrit la communion de Jeanne d'Arc, la première communion, où Jeanne d'Arc est prise comme par une détresse très grande, voyant le mal qui ravage son pays, c'est la guerre de Cent Ans, et pourtant la communion ne l'a pas rassasiée. Plus tard, elle apprend que le mont Saint-Michel est délivré, et là, Jeannette s'exclame « Quelle bonne communion je vais faire demain matin !» Donc cette attente d'une bonne communion avec Dieu Providence qui régit le monde. Et dans ces mots « Quelle bonne communion je vais faire demain matin !» on peut entendre tout le désir de Peggy de faire demain matin une bonne communion. Mais dans cette même œuvre, Jeannette a l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu est absent. Que si Dieu avait été présent comme au temps de Jésus, les choses n'iraient pas comme ça. Et c'est à ce moment qu'arrive Madame Gervaise, une franciscaine. Jeannette est comme en vision, elle voit Jésus. Madame Gervaise, en vision, elle aussi, lui dit les vers suivants. Il est là. Il est là comme au premier jour. Il est là comme au jour de sa mort. Éternellement, il est là parmi nous autant qu'au premier jour. Éternellement, tous les jours. Il est là parmi nous dans tous les jours de son éternité. Son corps, son même corps, pend sur la même croix. Ses yeux, ses mêmes yeux, tremblent des mêmes larmes. Son sang, son même sang, saigne des mêmes plaies. Son cœur, son même cœur, saigne du même amour. Le même sacrifice fait couler le même sang. Peggy croit qu'il est là. Et il est là dans la messe. C'est le même corps, les mêmes yeux, le même sang, le même cœur que le jour où il est mort sur la croix. Or, la croix, pour Peggy, n'est pas seulement quelque chose que nous pouvons regarder, mais la croix est quelque chose que nous touchons directement dès que nous commettons un péché. Et Peggy a une image merveilleuse de la croix à laquelle nous sommes tous reliés par des fils. Les fils que sont nos péchés nous rattachent au corps de Jésus et Jésus nous sauve en retour. Tous nous le touchons et nous sommes tous en communion les uns avec les autres. Cela montre que pour Peggy, la messe, qui est le lieu d'actualisation de la croix, est pour nous un lieu de communion avec le Christ qui meurt. Et nous sommes tous en communion à lui. Et avant même de recevoir l'hostie sacrée, nous sommes dans cette communion, dans notre être même de pécheur, nous sommes rattachés à lui. Et cela met un peu en un second plan la communion matérielle eucharistique, qui est comme la réalisation pleine, mais d'une communion que tous nous vivons déjà avec le Christ, que nous touchons de par notre condition des pécheurs. Et je pense que c'est une parole pleine d'espérance pour ceux qui, pour beaucoup de raisons, ne peuvent pas communier. Eh bien, ils sont déjà en communion. Tous nous sommes en communion et nous touchons le corps de Jésus et Jésus nous sauve. Et vous voyez aussi dans ce « Il est là », c'est la conscience de la présence eucharistique de Jésus. Et Peggy nous dit que quand on entre dans une église, on est un peu comme des pèlerins, nous avons les chaussures sales, on se nettoie un petit peu les chaussures en entrant dans l'église, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Le pèlerin, que fait-il? Une fois qu'il est entré, il ne pense plus toujours à ses pieds. Il ne regarde plus toujours si ses pieds sont bien essuyés. Il n'a plus de cœur, il n'a plus de regard, il n'a plus de voix que pour cet autel où le corps de Jésus et le souvenir et l'attente du corps de Jésus brillent éternellement. Ce qui donne aussi un accès à l'Eucharistie à travers l'adoration eucharistique. Et cette image des pieds sales nous conduit au dernier sacrement, à la confession. Peggy ne s'est sans doute plus confessé depuis qu'il était petit, il s'est reconfessé le 15 août, et entre les deux, qu'en est-il de la confession? Et ici, je voudrais citer Adrienne von Speyer, qui est une mystique suisse, que Hans-Urs von Balthasar a beaucoup accompagnée, et qui, dans un livre intitulé « La confession », parle de l'attitude de confession, où elle explique que le sacrement de confession s'enracine dans une attitude d'ouverture, où en fait, c'est une joie de s'ouvrir aux autres. Et cette attitude d'ouverture et de joie de s'ouvrir a son origine en Dieu, où le Père est heureux de s'ouvrir au Fils, et le Fils est heureux de s'ouvrir au Père. Et Dieu nous fait le cadeau en Jésus de nous ouvrir à lui dans le sacrement de la confession, qui en fait devrait être un sacrement de joie de pouvoir s'ouvrir les uns aux autres, comme en Dieu les personnes divines s'ouvrent. Or, Peggy n'a pas pu se confesser, mais il a pu vivre cette attitude de confession qui est donnée à tout le monde. Et c'est précisément quand il va à Chartres qu'il vit existentiellement cette attitude de confession. Je vous relis quelques vers magnifiques, vous vous rappelez le début. Étoile de la mer et de la lourde nappe, et la profonde houle et l'océan des blés, et la mouvante écume et nos greniers comblés, voici votre regard sur cette immense chape. Peggy va à Chartres, à un moment il a peur, il arrive sur la haute terrasse. C'est un peu la crainte du pénitent qui a peur d'aller se confesser. Mais tout à coup, il voit qu'en fait, c'est le clocher de Chartres et c'est la Vierge. Il dit « Nous serons donc toujours ce peuple inconcerté. Pourquoi avoir peur ?» Et puis il arrive à Chartres et là, son âme s'ouvre toute. Et il dit « Ô reine, voici donc, après la longue route, avant de repartir par ce même chemin, le seul asile ouvert au creux de votre main et le jardin secret où l'âme s'ouvre toute. Voici le lieu du monde où tout devient facile. » L'ouverture de l'âme devient facile. Peggy s'ouvre, il ouvre ses problèmes, et alors qu'il entre dans une plus grande communion avec Dieu, il entre aussi dans une plus grande communion avec ses frères. Et il dit qu'il peut prier comme jamais il n'a pu prier avant. « J'ai prié, mon vieux, » dit-il à son ami Joseph Lot, « comme jamais je n'ai prié. J'ai pu prier pour mes ennemis, ça ne m'était jamais arrivé. Quand je dis ennemi, tu comprends bien que je ne parle pas des laudés. » C'est un monsieur qui avait critiqué son mystère de la charité. « Cela, je suis capable de prier pour eux tous les jours. Mais il y a certains ennemis, certaines qualités d'ennemis, s'il fallait prier pour eux en temps normal, immanquablement, j'aurais une crise de foi. Non, mon foi ne me permettrait pas. » Donc Peggy ne vit pas la confession sacramentelle, mais il vit cette attitude et d'ouverture. Et le miracle, c'est quand il s'ouvre à Dieu, à nouveau les frères lui sont rendus, même les pires ennemis. Nous terminerons par un lien entre les sacrements et la prière. La fin des sacrements, c'est toujours la communion à Dieu et à autrui. Et finalement, le but des sacrements, ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc, il ne faut peut-être pas les absolutiser. Et Peggy a été confrontée à des gens qui l'ont un petit peu trop agacée sur cette question des sacrements, ces gens qu'il appelle les curés, qui sont aussi bien les prêtres que ces amis un peu trop rigides. Et il leur dit la chose suivante. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est qu'il faut se méfier des curés. Comme ils ont l'administration des sacrements, ils laissent croire qu'il n'y a que les sacrements. Ils oublient de dire qu'il y a la prière et que la prière est au moins de moitié. Les sacrements, la prière, ça fait deux. Ils tiennent les uns, mais nous disposons toujours de l'autre. Songe donc à ce que c'est qu'un signe de croix. Se couvrir d'un signe de croix, quelle communion avec Jésus. Peggy ne veut pas tant dire qu'il y a pour les uns les sacrements, pour les autres la prière, mais que le sacrement n'est vivant que grâce à la prière. C'est véritablement la prière qui met les sacrements en mouvement. Et ceux qui n'ont pas accès au sacrement peuvent en vivre d'une certaine manière comme Peggy en a vécu, et il leur reste la prière. Aussi voudrais-je terminer par une dernière image, une dernière page de Charles Peggy tirée du mystère des saints innocents. Au début, on a parlé de cette nef qui est un bateau, et maintenant, larguons les amarres, laissons cette nef partir, et cette nef, ce vaisseau, c'est la flotte des prières. Et Dieu voit plusieurs flottes des prières. Il voit d'abord son Fils qui prie le Notre Père. Il a bien su ce qu'il faisait ce jour-là, mon Fils qui les aime tant. Quand il a mis cette barrière entre eux et moi, Notre Père qui êtes aux cieux. Voici comment je suis forcé de les voir. De même que le sillage d'un beau vaisseau va en s'élargissant jusqu'à disparaître et se perdre, mais commence par une pointe qui est la pointe même du vaisseau. Ainsi le sillage immense des pêcheurs s'élargit jusqu'à disparaître et se perdre. Mais il commence par une pointe, et c'est cette pointe qui vient vers moi. Chaque pater est comme un vaisseau de bord, et derrière ces beaux vaisseaux de haut bord, les Ave Maria s'avancent comme des galères innocentes, comme de virginales birèmes. Telle est la flotte. La deuxième flotte, ce sont les prières de la Vierge. Et la troisième flotte, ce sont les innombrables prières, les autres, toutes, celles qui se disent à la messe et aux vêpres et au salut. Et les prières des moines qui marquent toutes les heures du jour et les heures de la nuit. Et le bénédicité qui se dit pour se mettre à table devant une bonne soupière fumante. Toutes, enfin toutes. Il n'en reste plus. Or, je vois la quatrième flotte, je vois la flotte invisible, et ce sont toutes les prières qui ne sont pas même dites, les paroles qui ne sont pas prononcées, mais moi, je les entends. Ces obscurs mouvements du cœur, les obscurs bons mouvements, les secrets bons mouvements, qui jaillissent inconsciemment et qui naissent et inconsciemment montent vers moi, Celui qui en est le siège ne les aperçoit même pas. Il n'en sait rien, elle n'en est vraiment que le siège. Mais moi, je les recueille, dit Dieu, et je les compte et je les pèse, parce que je suis le juge secret. Merci.
Merci. C'est vrai qu'on vous écouterait pendant des heures, cher Nicolas, parce que vous parlez vrai. À travers vous, c'est la vérité de Charles Péguy que nous entendons, mais c'est aussi la vérité de l'Évangile. C'est la vérité et la justesse de la mystérieuse musique des sacrements qui, pour être mystérieuse, n'en est pas moins efficace. Ceux qui veulent continuer l'entretien avec Nicolas Fallet, nous nous retrouvons en sortant par le transept nord à votre gauche, pendant une heure si vous voulez. La prière continue dans le sanctuaire de Saint-Germain-l'Auxerrois avec l'adoration eucharistique, le chant des vêpres et la messe dominicale de 18h30. La semaine prochaine, nous continuons notre aventure et ce sera Jean Huysmans qui va nous guider. Merci pour votre fidélité. Pardon, je me trompe d'une semaine. C'est Bernanos la semaine prochaine et Huysmans dans 15 jours et Marie-Noël pour le dimanche des Rameaux. Cette correction fera que nous entendons encore mieux ce projet. Merci encore de votre fidélité. L'événement continue à Saint-Germain-l'Auxerrois et à Notre-Dame.